Et la question du jour qu'on vous posait hier était la suivante. L'intelligence artificielle va-t-elle créer de la suspicion permanente? La question a été posée, elle est de circonstance, puisque l'intelligence artificielle, elle augmente de jour en jour, elle devient de plus en plus performante. Alors, le résultat est sans appel, 90% de oui sur notre page Facebook, parmi les votants, bien sûr, et 100% de oui, figurez-vous, sur Twitter. Alors, notre invité, sans surprise, et on le remercie à double titre, d'abord d'avoir accepté notre invitation, et ensuite, comme il était en vacances, eh bien, il a accepté quand même de nous apporter tout son éclairage et son expertise. Il s'agit de Guy-Philippe Goldstein, expert en cybersécurité. Guy-Philippe Goldstein, bonjour.
Bonjour Didier, vous êtes là.
Eh bien, ravi de vous accueillir, Guy-Philippe Goldstein. Êtes-vous d'accord avec moi quand je vous dis que l'intelligence artificielle, comme elle s'améliore de jour en jour, eh bien, elle risque de créer de la suspicion permanente, puisqu'une large majorité des votants de ce mini-sondage pensent exactement de la même façon?
Alors, oui, mais avec des nuances fortes. Parce qu'on s'excite beaucoup, à raison, sur les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle, mais on a déjà beaucoup de problèmes dans le numérique, et entre guillemets, on n'a même pas besoin de l'intelligence artificielle. Voilà. Mais donc, je vais expliquer pourquoi le oui, et puis aussi pourquoi les nuances, et les nuances sont importantes pour comprendre en fait quels sont les vrais problèmes.
J'imagine... Alors, oui, allez-y, je vous écoute.
Alors, si je démarre sur le oui, alors évidemment, il y a déjà la magie, il faut dire aussi, de toutes ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle dites génératives, les ChatGPT, les Claude, etc., qui font que vous pouvez en fait très facilement simuler le texte d'une personne avec son style, son phrasé, le type d'expression qu'il ou elle va inclure. Et ça, on peut très bien le faire donc sur tous ces outils-là. Et ça, c'est évidemment extrêmement puissant pour faire de meilleurs outils de phishing. Vous savez, ces faux emails que vous croyez recevoir ou d'une organisation ou d'une personne ou d'un directeur de votre organisation et vous faites pas attention et il vous dit « s'il te plaît, clique sur ce lien-là » ou hein, et vous cliquez et puis voilà, vous avez commis l'erreur de cybersécurité et la vulnérabilité, etc., et vous commencez à avoir des problèmes. Donc, effectivement, pour copier le style, le phrasé d'une personne ou d'une organisation, ces outils sont beaucoup plus puissants. Et on risque d'avoir moins d'arnaques, on va dire, au prince nigérien, ou de choses très basiques, pour lesquelles on pouvait juste, à la lecture, se rendre compte que ça avait l'air bizarre et donc pas crédible. Et là, on aura des messages qui... ont l'air très crédibles.
Je me permets de vous interrompre un instant, Guy-Philippe. Vous l'évoquiez, oui. On peut faire des textes, et je pense que les journaux s'en sont fait l'écho, on peut faire des textes à la façon de Proust, à la façon d'un tel ou d'un tel. Je ne sais pas si c'est dans votre domaine, si c'est dans votre terrain de jeu favori, mais qu'en est-il en fait du plagiat au niveau, par exemple, de la littérature, si demain on se met à écrire à la façon de, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Au niveau plagiat, évidemment.
Oui, alors ça, c'est une sous-question. Il y a deux choses. Il y a le style au niveau 2, mais je serais tenté de dire que c'est les licences de n'importe quel auteur de pouvoir pasticher dans le sens de... Il y a même eu, j'ai oublié, d'un concours qui a obtenu son prix parce qu'il était un grand auteur capable de faire des pastiches. On peut faire des pastiches de bande dessinée, on peut faire des pastiches de Tintin, etc.
Bien sûr.
Ça, c'est vraiment les licences de l'artiste. Qui est interdit, d'un point de vue déontologique, on va dire, pour l'auteur, c'est le plagiat, c'est-à-dire de reprendre exactement le même texte. Alors, encore pire, lorsqu'on est un chercheur et qu'on doit reprendre des passages d'un autre chercheur sans le citer. Ce qui est vraiment, à titre personnel, en tout cas, un crime déontologique très fort pour n'importe qui fait de la recherche. Et pour le coup, d'une certaine façon, l'intelligence artificielle peut copier le style. L'intelligence artificielle peut aussi permettre de détecter, il y a beaucoup d'outils qui le font d'ailleurs aujourd'hui, les plagiats dans le sens où il y a des passages, des textes qui ont déjà été écrits exactement par d'autres auteurs et qu'on peut retrouver en fait lorsqu'ils ont été réutilisés sans être référencés, sans être cités.
D'accord.
Donc, en fait, voilà, c'est toujours le point, c'est que l'intelligence artificielle permet le meilleur comme le pire. Si je creuse encore plus sur les questions pour lesquelles vos éditeurs ont raison, avoir peur, c'est la capacité, pas encore totalement avérée, mais qui va l'être de plus en plus, à recréer soit des images, soit des sons et donc des voix. Ça, pour le coup, c'est faisable de n'importe qui. Et donc, on a ces questions de fraude au directeur, entre guillemets, lorsque tout d'un coup, il y a une secrétaire qui reçoit, ou un directeur financier, ou un responsable financier, pas le directeur, qui reçoit un appel de quelqu'un qui a la voix du patron, et qui lui dit « Je suis à l'étranger, c'est pour ça que j'ai des appels depuis ce numéro de téléphone bizarre, j'ai absolument besoin que tu m'en fasses ce virement, etc. » sur un ton qui force l'attention et l'obligation de répondre ou d'obéir. Et en fait, derrière, c'est une voix truquée, et ce n'est pas la bonne personne.
Je voulais vous poser une question qui me taraude depuis quelque temps, et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné l'idée de poser la question du jour. C'est que finalement, je dirais les fakes, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas d'aujourd'hui justement. Je me souviens d'un film dans les années 80, si ma mémoire est bonne, avec Al Pacino, où une intervention américaine, je pense, c'était au Nicaragua ou au Panama. Ce film traite du fait que il y avait pas de soldats au Panama ou au Nicaragua, mais que ça avait été tourné dans les studios d'Hollywood pour mobiliser l'opinion publique américaine. Ça, c'est un exemple. Beaucoup de gens disent que, aujourd'hui, sont des complotistes, bien sûr, disent que l'homme marchait sur la Lune, c'était un fake aussi. Alors, justement, au jour d'aujourd'hui, on sait que, en tout cas, dans beaucoup de pays, les enregistrements vidéo ou les enregistrements audio, je veux dire, ou les vidéos peuvent constituer des pièces dans un procès, mais en aucun cas une preuve, due justement à la facilité avec laquelle on peut truquer tout cela. Alors, est-ce que cette intelligence artificielle, selon vous, risque de faire le lit des complotistes de tout poil ?
Encore une fois, oui et non. Alors oui, parce que les capacités que vous avez évoquées le film Wake the Dog, je crois, avec effectivement Al Pacino et Robert De Niro. Donc ça, ces capacités... Aujourd'hui, déjà, à refaire la voix, et peut-être probablement demain, à refaire de l'image. Et d'ailleurs, on l'a vu, d'ailleurs, avec des opérations russes, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans les médias, mais où certains interlocuteurs, il y avait la CAD dans l'Union européenne, on croyait se connecter avec un représentant ukrainien. Et puis, en fait, c'était une image, une vidéo truquée de la part de la Russie. Il y a eu pas mal de cas comme ça. Récemment, jusqu'à ce moment sophistiqué. Et on voit une distribution de plus en plus large aujourd'hui de ce type de capacités qui seront complètement mainstream assez rapidement. Alors là-dessus, il y a un risque, mais, et c'est là où j'apporte une nuance importante, il y a deux points. Le premier, c'est que lorsque c'est totalement faux, on finit par s'en rendre compte assez rapidement. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en mai de cette année, où tout d'un coup, il y a des informations qui ont circulé, comme quoi il y avait une photo vidéo truquée, où il y avait de la fumée noire qui sortait près d'un bâtiment à côté du Pentagone, et tout de suite, il y a eu un début de mini-panique sur la bourse aux États-Unis. Mais ça durait une demi-heure, une heure. Rapidement, on s'est rendu compte que c'était faux. Et le cours, d'ailleurs, a baissé de très peu, de moins d'un pour cent même pas. Donc, on voit aujourd'hui, là aussi, cette capacité à très rapidement corriger le tir, parce qu'on a aussi des systèmes d'information qui permettent de se rendre compte qu'en fait, c'est faux.
Mais justement, Guy-Philippe, comment est-ce qu'on peut prouver que c'est faux? Quelles sont les armes qu'ont les anti-IA, enfin, je veux dire, ceux qui vont veiller au grain, j'imagine que ça va se créer très bientôt, pour voir et pour pouvoir authentifier une vidéo ou un audio?
Le point le plus important dans ces questions-là, c'est pas nécessairement le trucage de l'information, même si effectivement il va falloir avoir un comportement pour se dire que si j'entends quelqu'un, ou par exemple Guy Philippe là à la radio, ou si je vois quelque chose, j'aurais besoin très probablement d'un élément de confiance non explicite, donc à côté, pour certifier de la source. Par exemple, avoir comme on le fait lorsqu'on signe des choses en ligne, ou qu'on se connecte sur des sites. Aujourd'hui, on demande à la fin un mot de passe et parfois, on peut demander une vérification complémentaire avec une certification qui viendrait par un compte sur votre téléphone mobile. Vous appuyez sur un bouton et donc vous pouvez accéder à Google Mail, etc. Mmh. Donc, tout ce qui est authentification multifactorielle, pardon, en français, ben ça, on pourrait très bien l'avoir de plus en plus pour des communications importantes qui viennent de votre président, etc., le directeur, machin chose. Et ça, on peut très bien l'imaginer assez vite, en fait. Et j'en viens en fait au point fondamental qui est la question de la source. Parce que ce qui compte en fait dans la diffusion d'une information, c'est à la fois le contenu, mais en même temps, qui diffuse le contenu. Je vous donne un exemple. Si vous entendez dans la rue quelqu'un qui commence à crier « Attention, parce que les grenouilles vont envahir la planète », vous n'allez pas l'écouter. C'est un fou. Vous vous rendez compte que c'est une voix perdue dans la rue, ça n'a pas d'importance. Si tout d'un coup, vous avez un ensemble d'experts qui commencent à vous dire « Faites attention, parce qu'on risque d'avoir une épidémie de grenouilles qui pourrait envahir la planète », tout d'un coup, vous dites « Ah, si vous avez un dirigeant politique qui va rebondir là-dessus et qui va dire « Ah oui, attention aux grenouilles qui vont envahir la planète », là aussi, vous-même, c'est une autorité de crédibilisation de la donnée, de l'information, vous allez écouter. Et c'est là où, en fait, la vraie question, et elle est fondamentale pour chacun d'entre nous, c'est de toujours regarder la source de l'information. Mmh. Est-ce que c'est une source, par exemple, est-ce que c'est un organisme d'information de référence, un journal de référence, une agence de presse de référence qui vérifie toujours le travail des sources, etc. Et donc, ça, c'est aussi très important pour après les relais. J'en viens parce qu'on a eu des cas récemment en Israël là-dessus, de savoir que chaque dirigeant politique, en particulier lorsqu'il est ministre d'État, de bien faire attention à l'information qu'il relaie. Je donne juste un exemple là-dessus du danger réel que cela peut poser, et ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est une opération très récemment dans le cadre de ce que l'on voit des manifestations contre la réforme judiciaire.
Oui.
Et ils ont pris des profils de vrais protestants, mais ils ont mis des fausses informations, comme quoi l'une de ces militantes, d'ailleurs j'ai mis son nom, avait mis de l'information personnelle, privée, sur des policiers. Et là-dessus, on a le ministre Ben-Gvir, qui, sans vérifier la qualité de l'information, a riposté cet élément-là en disant « Regardez ces militants d'extrême-gauche, ce qu'ils font, c'est grave, voilà, ils mettent sur la place. »
Bah oui, chacun se sert comme il peut.
C'est problématique.
Bien sûr.
Voilà, c'est là où il faut faire très attention, parce qu'il faut absolument vérifier la source. Et si on ne le fait pas, eh bien, soit on peut être la victime d'une action criminelle, soit on peut être la victime d'ennemis, comme par exemple l'Iran.
Ben en fait, si je vous suis bien, et en résumé, pour terminer cette conversation, Guy Philippe, eh bien, il faut qu'on se serve de nos neurones et de nos petites cellules grises personnelles, et toujours ne pas avaler des couleuvres sans aller vérifier une deuxième source, voire une troisième source.
Exactement. Le point critique, c'est toujours vérifier les sources qui a émis l'information initiale.
Eh bien,
si ce n'est pas crédible, on ne peut pas rendre l'information crédible, il ne faut pas y croire. C'est tout.
Eh bien, j'aime bien cette notion optimiste, mais c'est vrai que l'être humain a toujours tendance, quand il a le choix entre faire le bien et faire le mal, eh bien la majorité n'est pas toujours celle qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'en général, eh bien l'être humain a cette fâcheuse tendance à toujours tirer profit négatif d'un progrès absolument exceptionnel. J'espère que, et c'est déjà le cas, l'intelligence artificielle va pouvoir sauver des vies dans le cadre médical notamment. Merci infiniment Guy Philippe Goldstein d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes expert en cybersécurité et à très très vite, bien évidemment. Merci encore.
Je vous en prie.